France Culture.
18h sur Culture, le journal Valentin Gris. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Un homme abattu cet après-midi dans le fief de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Il était armé et s'était introduit illégalement dans la propriété du président américain qui était absent. En pleine discussion diplomatique, l'Iran toujours sous le feu de la contestation sociale. Nous serons à Téhéran où de nouvelles manifestations se sont déroulées en dépit de la répression. Enfin, nous suivrons un exercice militaire d'ampleur dans le sud de la France. Les chasseurs français se préparent un futur conflit de haute intensité. Un homme armé s'était introduit illégalement dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride cet après-midi. Il a passé l'obstacle de la sécurité avant d'être abattu par des agents, notamment des services secrets américains. Donald Trump, lui, était absent car à la Maison-Blanche, Laurent Kramer, on en sait un peu plus sur le profil du suspect.
Et en pleine nuit, vers 1h30 du matin, le suspect aurait donc profité de la sortie d'un véhicule pour pénétrer dans la résidence privée de Donald Trump. Ce jeune homme âgé de 21 ans transportait avec lui un fusil de chasse ainsi qu'un bidon de carburant. Selon le shérif de Palm Beach, repéré donc dans ce périmètre de sécurité, le suspect aurait ensuite braqué son arme vers deux officiers du Secret Service qui l'ont alors abattu. Originaire de Caroline du Nord, on connaît désormais l'identité du suspect selon les médias américains. Austin Tucker Martin, 21 ans, était porté disparu depuis quelques jours. Des avis de recherche pour disparition inquiétante ont été lancés par la police locale de la ville de Carthage, en Caroline du Nord. Le profil semble-t-il amateur du jeune homme interroge. L'individu n'était pas connu des services de police. Le FBI mène donc des perquisitions pour établir son profil psychologique et d'éventuelles motivations. Aucune hypothèse à ce stade n'est écartée, y compris celle d'un jeune homme désaxé qui aurait cherché délibérément à se faire abattre par les forces de police.
Donald Trump lui s'étonnait ce matin par le biais de son émissaire Steve Witkoff que ce pays n'est pas encore capitulé. L'Iran vient de boucler sa deuxième session de pourparlers avec Washington et son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, évoque désormais de bonnes chances de parvenir à un accord, tout en rappelant ses lignes rouges, que le pays puisse enrichir son uranium et qu'il puisse riposter en cas d'attaque, car Téhéran subit le déploiement militaire menaçant des États-Unis et le régime des Mollahs doit aussi composer avec des manifestations insistantes sur son territoire. Malgré la répression sanglante, elles ont de nouveau eu lieu aujourd'hui dans plusieurs universités de la capitale, mais aussi en province. Compte rendu de Siavosh Ghazi.
Pour la seconde journée consécutive, des étudiants ont manifesté dans plusieurs universités de la capitale, notamment celles de Sharif, Amir Kabir, Téhéran ou encore Sciences et Industries, mais aussi dans des universités à Mashhad, qui est la seconde ville du pays. Des slogans contre la dictature, pour la liberté ou encore en faveur de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien monarque, ont été scandés. Dans plusieurs universités de Téhéran, des étudiants favorables au pouvoir ont également manifesté et les affrontements entre étudiants ont fait plusieurs blessés. Depuis plusieurs jours, il y a également de nombreuses cérémonies à la mémoire des victimes pour le 40e jour de leur mort un peu partout à travers le pays. Dans certaines villes, plusieurs familles ont décidé d'organiser en commun ces cérémonies, ce qui a donné lieu à des rassemblements plus importants avec des slogans comme « mort au dictateur » ou « en faveur du fils de l'ancien monarque ». Tout cela intervient alors que la tension est à son comble. De nombreux Iraniens sont désormais persuadés qu'une attaque américaine est inévitable. D'ailleurs, le chef de l'armée de terre a déclaré que les forces armées iraniennes étaient en état d'alerte maximale.
Siavosh Ghazi, et j'ajoute que Steve Witkoff a également reconnu aujourd'hui avoir rencontré Reza Pahlavi qui se dit toujours prêt à conduire une transition politique dans le pays. Le Pakistan a fait plus de 80 morts ce dimanche dans des frappes aériennes à la frontière avec l'Afghanistan. Représailles face aux attentats suicides menés en février par des militants afghans de l'État islamique, dont une attaque dans une mosquée à Islamabad qui avait coûté la vie à 40 personnes. Le régime taliban dénonce l'atteinte à des civils, il promet une réponse appropriée. Est-ce une nouvelle provocation ou bien la Hongrie veut-elle vraiment bloquer de nouvelles sanctions contre la Russie? Le gouvernement de Viktor Orban vient d'annoncer qu'il s'opposerait à l'adoption d'un 20e paquet européen de sanctions, lequel doit être voté à l'unanimité des 27. En cause, l'oléoduc Droujba qui achemine par l'Ukraine du pétrole russe à Budapest. Il a été endommagé par des frappes russes, mais la Hongrie accuse Kiev de ne plus livrer d'hydrocarbures. Elle menaçait plus tôt dans la semaine de bloquer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Merci Anesic, bonsoir.
Bonsoir.
Ces menaces interviennent dans un contexte politique sensible en Hongrie.
Cette annonce s'inscrit effectivement dans une logique de campagne électorale en Hongrie où des législatives sont prévues le 12 avril prochain. Le premier ministre sortant, Viktor Orban, cherche à gagner des points alors qu'il est devancé dans les sondages par son principal rival, Dominique Moïsi, géopolitologue, spécialiste des relations internationales et conseiller spécial de l'Institut Montaigne.
C'est une manière pour Viktor Orban de dire à ses partisans, écoutez, si vous votez pour l'opposition, eh bien vous n'aurez plus de pétrole russe. Donc votez pour moi, vous aurez chaud l'hiver prochain. Il y a un peu ce message souverainiste de la Hongrie de Viktor Orban.
La Hongrie a déjà menacé par le passé de bloquer les sanctions européennes contre la Russie. Budapest a reculé, parfois en échange de contreparties financières ou politiques, Dominique Moïsi.
La Hongrie parle fort, mais au dernier moment, après avoir provoqué Bruxelles, généralement, Orban adopte une position plus modérée, plus ambiguë. Ce sera intéressant de voir si cette fois-ci il reculera à nouveau ou si au contraire, compte tenu du contexte électoral, il ira jusqu'au bout dans sa provocation à l'encontre de l'Union européenne.
La Hongrie et la Slovaquie sont encore dépendantes du pétrole russe. La Slovaquie qui menace par ailleurs d'arrêter de fournir de l'électricité à l'Ukraine, Valentin.
Merci Anesic, merci beaucoup. Un ambassadeur a-t-il le droit de commenter la situation politique intérieure du pays où il siège? Visiblement, pas sur tous les sujets. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, annonce ce dimanche la convocation au Quai d'Orsay de l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner. Ce proche de Trump avait dénoncé l'extrémisme violent de la gauche à propos de la mort du militant nationaliste Quentin Derenck. Il devrait être recadré par Paris. On écoute Jean-Noël Barrot, invité ce midi de France Inter.
Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française à des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement. Nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent.
Jean-Noël Barrot, qui a par ailleurs évoqué le SCAF, le projet d'avion de combat européen, projet essentiel pour la sécurité de la France, pour lequel on se battra jusqu'au bout, a-t-il expliqué. Cette semaine, le chancelier allemand Friedrich Merz avait jeté le doute, estimant que Berlin et Paris n'avaient pas besoin du même avion, les industriels français et allemands ne parvenant pas pour l'instant à s'entendre. Un fidèle d'Emmanuel Macron nommé au ministère des Comptes publics, David Amiel, actuel ministre délégué de la fonction publique, vient d'être nommé. Il remplace Amélie de Montchalin en partance pour prendre la tête de la Cour des comptes. L'Élysée n'a pas annoncé si David Amiel serait lui remplacé. Un remaniement plus large est à attendre la semaine prochaine avec les probables départs de Rachida Dati à la culture et de Charlotte Parmentier-Lecoq à l'autonomie. Enfin, on pensait la guerre en Occident résolument asymétrique avec seulement des luttes à mener contre des groupes armés mais moins puissants. L'agression de l'Ukraine il y a 4 ans a rebattu les cartes et les armées s'entraînent désormais à des conflits dits de haute intensité où des adversaires à armes égales jettent toutes leurs forces dans la bataille. Exemple avec les chasseurs français engagés dans un exercice en début d'année dans le sud-ouest. Éric Biegala l'a suivi pour France Culture.
Base aérienne de Cazaux en Gironde le 28 janvier dernier. 4 rafales mettent en route leurs réacteurs et décollent l'un après l'autre. Sous leurs ailes, ils emportent chacun 2 missiles de croisière Scalp, 8 en tout. Une puissance de feu phénoménale. Leur objectif, aller détruire le quartier général de l'ennemi. Une opération typique d'une guerre aérienne de haute intensité. Le général Pierre Godillière commande la brigade aérienne de l'aviation de chasse qui chapeaute l'exercice.
Ce qu'on peut noter effectivement depuis 2022, c'est que cette haute intensité des conflits est revenue au premier plan les affrontements et singulièrement le combat aérien revient au devant de la scène. Et c'est à ça que nous nous entraînons aujourd'hui, bien sûr.
Le raid aérien et le tir de missile Scalp sur l'adversaire ne s'improvisent pas, raconte le capitaine Johan, chef de mission sur cette opération.
Ce raid Scalp, on a eu une journée pour le préparer, donc c'est assez court. Nous, en tant que pilote, on va réfléchir à comment rejoindre le point de tir en faisant face aux menaces aériennes et solaires qui nous sont données par l'équipe de renseignement. Là, en tant que chef de mission, moi, il fallait que je coordonne tout ça et qu'on arrive à mettre tout ça en œuvre en vol.
Résultat de l'exercice, les 8 missiles atteignent leur but avec une précision métrique. Les Ukrainiens, eux, avaient réussi à détruire ainsi un sous-marin russe avec l'une de ses armes, et ce n'était pas un exercice.
Le reportage d'Éric Biegala. Le temps de ce dimanche soir, nuageux sur une majorité du pays, des averses sur le nord, la Picardie et jusqu'en Alsace. Vigilance rouge crue maintenue sur la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Les températures sont clémentes, 13 degrés à Paris, 10 à Toulouse, 12 à Ajaccio. Ce journal a été préparé par Caroline Beneteau, mis en onde par Éric Perruchot-Triboulet.